Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir sur la 93.5. Nous sommes au 6 février 2025. 6 février, c'est la journée de lutte contre les mutilations génitales, notamment l'excision. Selon l'UNICEF, environ 230 millions de filles et de femmes sont touchées par le phénomène. L'Afrique seule prend 144 millions. Le phénomène devient de plus en plus inquiétant et il faut agir. Nous aborderons le sujet dans cette émission Club de la presse de ce jeudi 6 février 2025. Nous parlerons certainement d'autres sujets liés à l'actualité. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Vitok Beitomega est à la mise en onde. Jérôme Akoutia sur la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Merci à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM, nous sommes à Baga, près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapao. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. De la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, du continent africain aussi, du monde entier. C'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Ambroise Ponzo, bonjour.
Pascal, bonjour. Bonjour le confrère ici présent. Bonjour les auditrices et auditeurs de Radio Canal FM, ceux qui sont à l'intérieur du Togo, à Lomé et ceux de la diaspora.
Ambroise, je pensais que tu allais être à Accra.
Oh, bon, ce n'est pas mon habitude. D'abord, personne ne m'a invité. Si vous m'invitez, je peux venir, je peux ne pas venir aussi, selon mes calendriers, selon mon programme. Mais personne ne m'a invité, donc moi, d'abord, je ne vais pas dans des lieux sans invitation. Ça, c'est un principe.
D'accord. Si on ne t'invite pas, tu ne viens pas.
Je ne viens pas. Apparemment, les gens se sont invités là-bas. Et bon, bref.
D'accord. C'est bon.
Parce que les gens, certains aiment la fête.
D'accord.
C'est une célébration des 20 ans. Énorme commémoration finalement.
D'accord, on va parler dans cette émission bien sûr. Jean-Paul Rigny, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère bonjour. Que vous allez bien.
Je vais bien par la grâce de Dieu, j'espère que tu vas également bien. Bonjour Amboise, bonjour aux techniciens derrière la baie vitrée. Bonjour aux auditrices et auditeurs du Club de la Presse qui nous écoutent sur tous vos canaux digitaux et un peu partout dans le Togo et dans le monde entier.
Alors tu n'es pas aussi invité à Accra?
Bon, il faut dire quand même que bon, en ce qui concerne les informations sur l'activité de Cara, nous pourrons les avoir d'une manière ou d'une autre. Une chose est d'avoir l'invitation, une chose est peut-être de n'avoir pas l'invitation, mais de couvrir l'événement. Mais pour la gouverne, bon, moi, je ne sais pas si plusieurs médias ont été invités, mais quand même, ce que je peux dire, c'est que pour le colloque, nous avons été invités, nous avons couvert le colloque. Mais en ce qui concerne les activités à l'intérieur, il n'y a pas eu d'invitation formelle. Et dans la majeure partie de ces activités, rarement vous recevez des invitations formelles.
D'accord. Moi, c'est vrai, j'en parlais tout de suite concernant surtout cette journée, la journée du 6 février. C'est la journée internationale ou la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel nous nous tergiversons pas souvent. Mais toujours est-il que ça crée, c'est un phénomène quand même qui crée des dommages et qui crée des dangers au sein de la société. Alors, puisque avec les chiffres que j'avais avancés tout de suite, 230 millions de femmes et de filles sont touchées par l'excision ou la mutilation génitale. Et en Afrique, on compte pratiquement 144 millions. Ça veut dire que ça prend justement de l'ampleur.
Oui, malheureusement. Vous savez, ce phénomène qui touche la santé des enfants, surtout, a pour origine des liens socioculturels qui ont tendance à vous dire que il faut ablamer. Hein, l'ablation plutôt de l'utérus, pas de l'utérus, oui, c'est
clitoris,
ça, non
de clitoris.
Du clitoris de l'enfant, pour des raisons que les tenants savent. Et c'est souvent en milieu musulman, hein, c'est ce que j'ai remarqué, c'est très souvent en milieu où il y a le milieu islamique. Et quand vous allez dans certaines villes qui sont pas forcément majoritairement musulmans, mais où il y a la zone, même en Lomé aussi, dans la zone où il y a des musulmans, vous allez voir ces enfants en souffrir. Au Togo aussi, on en parle. Au Burkina Faso, c'était vraiment généralisé. Au Mali, Niger, on n'en parle même pas. Et donc, c'est la tendance traditionnelle et culturelle qui oblige les parents à offrir leurs enfants à cette mutilation-là, qui au final crée d'énormes problèmes de santé à ces enfants. Je crois que la sensibilisation et le bâton doit se lever aussi. Il faut sensibiliser, mais il faut sanctionner les parents. Puisque quand on parle de sensibilisation, il faut leur expliquer qu'en fait, moi je suis de coutume élevée, je suis chrétien d'obédience. Et donc, il n'y a pas ça chez nous. Je n'ai jamais... Parce que Dieu a créé, pourquoi demande que nos frères qui sont ou sœurs qui sont en train de soumettre leur enfant à ces services-là, qui se demandent pourquoi Dieu, c'est Dieu qui nous a créés, non? S'ils arrivent à comprendre pourquoi Dieu nous a créés, il a mis les oreilles, les yeux, il a aussi pensé au clitoris, dans le vagin, excusez-moi ceux qui nous écoutent, puisqu'il faut, toucher du doigt ce qui est de l'essentialité du mal. C'est parce que Dieu sait pourquoi il a créé ça. Donc certains veulent remplacer Dieu. C'est pas à cause de votre goût ou de votre chez nous on dit vivre c'est blibo, c'est-à-dire que vous avez un goût fou pour le sexe et vous ne voulez pas que personne ne vienne partager ça avec vous. Mais il suffit d'éduquer votre femme.
Mais souvent, éduquer vos
filles.
Oui, mais en vrai, souvent la raison qui est donnée, c'est que ça amène la femme à être fidèle à son mari.
C'est un faux problème. Écoutez, et nous, ok. Et nous, aussi, nous avons des communautés, on a des femmes. Nous, dans notre culture, on a aussi des femmes. On a des femmes. Je ne vais pas dire des choses ici qui vont énerver et la communauté là, ceux-là qui s'adonnent à ça. Plus ils sont dans ça, plus c'est là-bas même il y a la fornication, c'est là-bas même il y a l'adultère. Je vais les décevoir, je suis désolé. Si tu crois en ton homme, si tu aimes ton homme, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Je suis désolé. Au lieu que de penser mutiler une petite fille qui est innocente d'ailleurs, qui n'en sait même pas ce qu'on en fait avec son corps. Et pas n'importe quel organe, le sexe qui va reproduire demain. C'est pas normal. Moi, je suis pas de cet avis-là, je suis pas d'accord. C'est les gens qu'il faut mettre en prison. Il faut les amener à une cour d'assises. Là, ils sauront que c'est un crime qu'ils sont en train de commettre. Ouais, c'est un crime.
D'accord. Justement, c'est en quelque sorte une violation de droits des filles et des femmes, bien sûr, quand il s'agit. Puisque il y a des lois qui sont là, qui punissent justement cet acte, n'est-ce pas, Jean?
Oui, je suis parfaitement d'accord avec Amboise. C'est un crime parce que vous violez un droit humain d'une personne, vous la privez d'une partie de son organe qui, il faut le dire, c'est un organe qui procure du plaisir. Pourquoi X peut avoir du plaisir et on va empêcher à Y de ne pas avoir du plaisir? C'est une question que moi je me pose. C'est vrai que cette pratique a vraiment avec où il y a des décennies auparavant, il y a eu de la sensibilisation, ça a semblé baisser, mais il faut dire que dans les zones rurales principalement, le phénomène à la peau dure. Et pour certains, on dit non, c'est parce qu'on va faire l'ablation du clitoris que la femme va être fidèle. Mais moi, il dit, c'est le contraire, en fait, selon moi. C'est-à-dire que quoi? Quand vous empêchez une femme d'avoir du plaisir en lui supprimant ça, quand elle va se marier, elle va penser peut-être que c'est son mari qui n'arrive pas à lui procurer du plaisir. Et elle va vouloir peut-être chercher autre chose. Je ne sais pas si vous avez eu vent de ces femmes-là qui souffrent de frigidité, qui n'arrivent pas à avoir du plaisir dans le mariage, mais c'est vraiment compliqué.
Et elles n'ont plus le goût sexuel.
Elles n'ont plus du goût sexuel. On sait, Dieu a créé le sexe, ce n'est pas uniquement pour la reproduction. Enfin, toutes les fois où l'homme va vers la femme, ce n'est pas pour avoir un enfant. Donc c'est parce que le sexe a, je vais dire, une importance capitale au sein du couple. Mais si par ignorance, je dis bien, c'est par ignorance que les gens le font. À un moment donné, il faut qu'on se réveille. Est-ce que les autres communautés dans lesquelles on ne fait pas l'ablation du clitoris, est-ce que ces personnes-là sont des infidèles. Je dirais non. En fait, l'infidélité découle d'un comportement, d'une manière de voir les choses et de certaines valeurs qu'on n'a pas. Une fois qu'on a, vous avez éduqué votre fille de façon normale, les valeurs seront installées. Et moi, je dis que si aujourd'hui, ce phénomène-là n'a pas encore disparu, j'accuse un peu, certaines organisations de la société civile. Parce qu'on dit...
Elles ne font pas le travail, c'est ça?
Je dis qu'elles ne font pas le travail parce que quand vous allez dans les zones reculées, il n'y a pas véritablement de sensibilisation sur le phénomène. Beaucoup d'organisations, elles ont leur récépissé et tout, et sont pleines à nommer dans les grandes villes. Elles disent qu'elles font des activités, elles prennent des rapports parce qu'elles sont financées. Mais quand vous allez dans les zones rurales, mais ma foi, on ne les connaît pas. Regardez la dernière fois ce qui s'est passé avec la jeune fille qui s'est...
Justine,
qui a tenté de se suicider finalement, qui a trépassé au CHU Tocouin. Mais malgré qu'elle était dans une situation difficile, personne n'a eu le réflexe d'approcher une organisation. Est-ce que ces organisations ont des antennes dans les zones rurales? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'il ne sert à rien qu'on dit qu'on est sur le terrain, on fait des rapports. Et ma foi, est-ce que ces rapports sont véritablement vrais? Excusez-moi la tautologie, mais c'est une question qu'on se pose. Moi, je dis qu'aujourd'hui même, il faut que l'État soit un peu plus regardant au niveau de ses ORC.
Justement, mais écoutez, est-ce qu'au niveau même de l'État, puisque déjà nous disons que c'est un acte quand même qui est répréhensible. Mais est-ce que l'État ne doit pas prendre aussi des mesures?
Non, l'État doit sévir. L'État, ça part de responsabilité. Ça, il ne faut pas dédonner l'État. Parce que l'État a le bien-être d'un seul Togolais dépend de l'État d'abord. C'est-à-dire, l'État a le droit de protéger toi, moi, X, Y. Mais quand le bien-être de X est bafoué, mais l'État a le droit de savoir pourquoi c'est passé, de restaurer la personne, de rendre justice. Mais tant que les organes qu'il faut ne vont pas bien fonctionner, on va toujours avoir ces situations-là qui vont perdurer. Je crois qu'à un moment donné, bon, peut-être c'est parce que ça ne touche pas directement certaines personnes que on ne prend pas à bras le corps, je vais dire, ce phénomène. On se dit, c'est les autres, mais c'est les autres. Ça va entraîner un phénomène de société. Et parfois, un jour, quand la société se porte mal, c'est que finalement tout le pays va mal se porter.
Et mais c'est l'État qui est le garant de la protection surtout des droits humains. Et quand on dit que c'est les autres, mais là aussi, tel que vous-même vous l'avez dit, l'État c'est lui en quelque sorte notre papa à tous. Ambrose,
oui, moi il a dit l'État est le premier responsable de la santé sociale des couches qui composent notre nation et surtout de l'enfance. Je sais qu'il y a des lois qui sont faites ces dernières années pour protéger les enfants et les femmes.
Surtout les filles.
C'est une avancée, on peut le noter, mais seulement que les lois ne sont pas fortement divulguées pour que les ayants droit ou ceux qui doivent être sensibilisés puissent avoir le message, puissent avoir l'information. Et donc, il appartient au ministère des Affaires sociales. Une amie m'a demandé la dernière fois, ça fait pratiquement 10 jours, touchant pas forcément la mutilation sexuelle. Et il y a un ministère qui s'occupe de la femme. J'ai dit oui, social. Mais le ministère n'est pas visible. Que ce ministère n'est pas visible. On a comme l'impression que ce ministère n'est pas fortement financé pour qu'il soit visible sur le terrain. Le ministère n'est pas visible. Alors que le gros des problèmes, on a tellement de problèmes que on ne sait pas qui prioriser. Maintenant, ce qui est important, c'est les femmes et les enfants. Dans un premier temps. C'est-à-dire, quand on met le corpus de la hiérarchie, les femmes et les enfants doivent être les premiers à être protégés. Les femmes et les enfants, la jeune fille. Il y a des lois qui ont été confectionnées pour ça. Maintenant, il faut des moyens. Je n'en sais rien, mais je suis en train d'imaginer qu'au Togo, on priorise le ministère des Affaires étrangères avec 19 milliards de francs CFA pour des histoires de diplomatie qui n'apportent rien aux Togolais. Alors que ce qui est urgent, sur les 19 milliards là, si on coupait au moins 10 milliards pour affecter aux enfants et aux femmes, c'est celles qui vendent, qui souffrent sous le soleil, cherchent des bois pour aller juste préparer à manger aux enfants, il faut s'en sortir. Les gens ne pensent qu'à eux. On pense au ministère de la Défense. Le Togo n'a jamais fait une guerre dans ce pays. On pense à la diplomatie. Ils appellent ça comment? Diplomatie et active. Non, il y a un mot.
Agissance.
Ce n'est pas ce qui agit dans cette diplomatie là-bas. Et on donne gratuitement 19 milliards à un ministère qui s'en va à, au comment vous appelez ce pays,
Kyrgyzstan.
Kyrgyzstan et Afghanistan, c'est des pays bizarres qui sont dans l'Asie, et Kazakhstan, c'est des pays bizarres où on envoie tout. Vous me voyez. Là, on veut faire quoi avec ces pays-là?
D'accord, ok, merci.
Non, je n'ai pas fini.
Mais oui,
on est deux ici, je n'ai pas fini.
Non, on a d'autres sujets. En vrai, on a d'autres sujets.
Heureusement qu'au début, on l'avait dit.
Oui,
on
oui.
Mais si on a ouvert la boîte de Pandore pour dire qu'il faut renforcer le ministère des Relations Sociales. Il faut doter des moyens financiers à ce ministère pour que ce ministère-là soit visible sur le terrain. Au profit des enfants, des femmes et de la jeune fille. Je suis sérieux.
D'accord, ok, merci. Oui, Jean.
Oui, je là où Ambroise a chuté, c'est là où je voulais abonder, parce que vous savez, ces sujets-là, souvent on les trouve anodins, mais si on n'y prend point garde, après, quand le phénomène grandit, c'est des choses qu'on n'arrive plus à gérer. Et quand tantôt Ambroise parlait de budget, je crois que c'est les députés en fait qui doivent faire ce travail-là. C'est les députés qui doivent faire ce travail-là. C'est-à-dire quand un député qui doit vraiment faire son travail, il prend le budget, on dit ici, voici tel qui est affecté. Mais pourquoi ceci n'est pas affecté ici? Il faut faire des propositions et c'est un lobbying.
C'est-à-dire on fait d'abord une analyse approfondie.
Vous et moi, nous sommes un peu des profanes, on n'a pas directement accès à ça. Nous, on ne peut que faire des observations, des analyses, mais c'est eux qui sont à ce niveau. Il faut renforcer le financement, le budget de l'action sociale. Quand vous discutez avec certains de ce ministère, clairement, on vous dit qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens pour la communication. Il faut une activité. On dit, mon frère, on n'a pas de moyens. Ben, on n'a pas de moyens. Qui alloue le budget? C'est pas vous, c'est pas moi. C'est depuis la fin de l'année précédente que ça se décide. Je crois qu'ici, il faut que les députés vraiment fassent leur travail. Qu'on n'ait plus des députés juste qui viennent lever la main pour voter oui, non, mais il faut qu'ils aillent en profondeur.
D'accord.
Fassent des propositions constructives et qu'on sache le pourquoi ils sont payés, en fait.
Que justement ce ministère-là puisse avoir les moyens, qu'on n'en fête pas les fonds à la présidence, que c'est le premier président qui offre des dons à tel enfant à travers Mme Johnson, ou soit c'est tel primature. Il faut oublier ça.
D'accord.
Okay. Donner l'argent. Financer le ministère de l'Action sociale.
D'accord.
Moi, où se trouve le ministère? Je n'ai. Qui est l'actuel ministre même?
C'est Madame Kosiwa Klassou.
Ah, donc ça, je ne la connais pas. Mais je souhaiterais qu'on mette les moyens à ce ministère, qu'on arrête ce cinéma-là, que la présidente a fait ceci. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas le rôle de la présidence. Non, c'est pas le rôle. Il faut donner cet argent au ministère des Affaires sociales.
D'accord. Ambroise, je reste avec toi. Nous allons parler environnement parce que je sais que ça t'intéresse bien. Il y a le journal Le Populiste qui écrit ce matin environnement. Quand l'incivisme s'abat sur le Grand Lomé, les mairies appelées à agir autrement. Et déjà avec la photo d'illustration, on voit des égouts de caniveaux remplis de sachets et des ordures. Bien sûr, à la une alors du journal Le Populiste. Alors, c'est aussi un autre phénomène, Ambroise, un autre phénomène aujourd'hui qui nous envahit, et il est très important quand même de prendre des décisions.
Le phénomène existait depuis longtemps, et ça a pris de l'ampleur dans les années 90, avec les troubles sociopolitiques de 92-93, avec la grève, où les sacs plastiques, les emballages plastiques ont infiltré le territoire par des frontières poreuses, parce qu'il n'y avait pas tellement cette période de contrôle. Et ce sens s'en est ajouté à ces unités industrielles de la zone franche qui aussi en fabriquent. Et le problème, c'est vrai, n'est pas seulement affaire de sacs plastiques ou déchets plastiques, mais c'est une question de gestion même des ordures ménagères, des déchets dans le pays. Et quand les mairies ont pris le contrôle, on se rappelle de la fameuse SOTEMA, la société qui était spécialisée dans la collecte des ordures ménagères dans la ville de Lomé. Maintenant, Lomé est grand. Lomé est non seulement grande, Lomé s'est étendu vraiment à l'horizontale, et au point que des mesures n'ont pas été prises pour pouvoir assainir la ville. Le Grand Lomé, je veux dire. Quand on parle du Grand Lomé, on quitte l'ancien Lomé pour aller à Baguida, on lorgne jusqu'à Agoué, on vient à Zanguera, on descend à Sabado, et à Ségué, ou à Didogomé et autres. C'est ça le Grand Lomé. Maintenant, le Grand Lomé veut dépasser ça pour aller à Kpala, à Michintobé, pour aller à Mwepe. Ça tend. Et donc, il n'y a pas eu de mesures de planification qui puissent arrêter le phénomène de l'extension, de la prolifération des déchets, des ordures ménagères. et dont les sacs plastiques, les déchets plastiques font au moins 40% de ce lot-là. Et donc, le gouvernement a, en 2011, bien fait de prendre un décret, notamment contre la préférence des sacs plastiques, mais qui n'interdit pas leur utilisation, mais plutôt leur entrée, c'est-à-dire production, importation, gestion et tout ça, mais qui n'a pas donné, ils tendaient même à aller vers les produits bio, dégradables, c'est-à-dire une autre forme d'alternative. Mais dans la zone industrielle, en dehors de ceux qui l'importent, il y a toujours ce phénomène-là. Maintenant, la gestion des maires ou des communes dans les quartiers par rapport aux déchets, vous allez voir des collecteurs d'ordures ménagères de fortune qui, à minuit, 23 heures, viennent déverser en pleine voie. Il y en a même qui peuvent oser même verser sur la chaussée même. Ce n'est pas possible. Et quand je vois ça, j'ai la chair de poule. Des fois, je me débat même dans mon quartier, pas forcément sur ma ligne directement. Il suffit que je vois ça, j'ai la teigne. C'est-à-dire que j'ai un problème je dois avoir la gale. Vous comprenez? J'ai une allergie qui apparaît et je fais tout pour connaître ceux qui sont aux alentours de ce dépotoir sauvage créé fortuitement comme ça par des indélicats. Je leur dis, mais c'est vous qui allez avoir des problèmes. Pour les menacer, je leur dis, mais il suffit que ça pleuve, vous avez des problèmes. Les mouches, tout ça là, si à Colonna, c'est vous qui allez attraper. Et vous allez voir, après 3 jours, c'est les gens qui se lèvent, ils s'organisent pour pouvoir enlever ça et brûler, incinérer. Mais il y en a qui s'en foutent pas mal. Puisque ce n'est pas devant ma porte, même si c'est à 20 mètres, moi, ce n'est pas mon problème. Le Togolais doit prendre conscience de la gestion de sa proximité, de son environnement immédiat, de l'entourage de sa maison. Même si tu as loué, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir un comportement civique. Souvent, excusez-moi, les locataires, excusez-moi, souvent, c'est eux qu'on accuse parce qu'ils viennent, ils savent qu'ils vont partir, ils font du dégât dans le quartier, ils peuvent partir. Ah non, vous êtes Togolais, vous allez vous visiter juste, vous quittez à Plaou ici, par la carte ou par ici, vous allez à Sogakop et vous comprendrez que là, vous êtes au Ghana, vous n'êtes plus au Togo. Vous allez voir dans les taximens, il suffit d'être derrière eux, les taxis qui s'avancent comme ça, vous allez voir quelqu'un, même le taximen lui-même. Ils jettent la peau de banane derrière, surtout les sacs plastiques noirs là. C'est pas normal. C'est de l'incivisme. C'est-à-dire que le problème n'est pas le consommateur, en fait, au final. Le problème, c'est les grossistes. C'est les importateurs, c'est les producteurs dans les usines, dans les 4 ou 5 usines industrielles qui sont, unités industrielles qui sont dans la zone franche. Si les gens peuvent laisser un peu les taxes pour interdire ces gens-là, ce serait bien. Faut pas qu'on vienne nous dire que ceux qui travaillent là-bas, ils vont faire quoi? Mais en taille, nous, on avait organisé un forum en 2013 à l'hôtel Eda Oba ici pour trouver des alternatives crédibles. Il y avait des gens qui sont venus du Mali, du Niger. Les expériences ont été partagées en dehors du Rwanda qui est le maître de la bonne expérience de Success Story. Et c'était clair qu'il faut peut-être aller à des alternatives avec les TW12, les TW12, vous voyez, c'est ça, pour désagréger les sacs plastiques non biodégradables en biodégradables pour que dans 2 ans, ça puisse s'effriter et disparaître de la nature.
Mais entre-temps, ça a été annoncé même par le gouvernement.
Oui, le gouvernement ne fait pas. Le ministère, les ministères en charge de ce dossier, environnement, industrie, puis avoir aussi finance, une fois, commerce aussi. J'ai l'impression qu'il y a une lassitude qui est là, à ce niveau, qu'il faut corriger. Parce que, c'est vrai, le décret. Il y a eu un décret du 5 janvier 2011. Parce que là aussi, avant que le décret n'arrive, il y a eu un tapage de l'Observatoire ouest-africain de l'environnement. On a fait du tapage. Je ne sais même pas là où il y a, quel lieu on n'a pas été. Dans les églises, dans les mosquées. On a été au Grand Marché avec Mme Aélégan, qui était directrice de l'EPAM dans cette période-là. On a été aussi technique dans plusieurs écoles primaires pour informer, sensibiliser. Et l'écho, c'est qu'il y a eu un décret. Et ce décret, je l'ai dit tantôt que ce décret n'interdisait pas formellement les sacs plastiques, les emballages plastiques, mais régulait leur entrée sur le territoire, leur fabrication et leur distribution. Mais je crois que ça a été un travail inutile, finalement. Il va falloir aller à l'interdiction formelle.
D'accord. C'est important d'aller à l'interdiction
formelle. Mais ce qui est formelle, essentiel, c'est la gestion des quartiers par les communes, par les mairies. On a l'impression que certaines communes sont là. C'est comment gérer la fin du mois des employés. Le reste, ça s'arrête là. Et les quartiers sont laissés Autriche sort. Et il y en a même des communes dans lesquelles les maires ne s'entendent pas. Parce qu'il y a les maires et ses agents qui ne s'entendent pas. Comment voulez-vous que la commune se porte bien? Non.
D'accord. Entre-temps, je parlais de Mme Classou, qui est docteur, quand je disais qu'il est docteur, et qu'elle est docteur, en fait, elle est plutôt professeur. Hein, professeur, donc, il faut justement qu'on
les corrige. Ils sont à l'écoute, je comprends bien.
Mais non, ce qui est sûr...
Non, je souhaiterais qu'on les aide.
Ce qui est sûr, ça a été corrigé, c'est très important. Oui. Alors, oui, Jean, c'est vrai, quand on parle alors de ce phénomène, l'incivisme, qui prend de plus en plus d'ampleur alors dans dans les différentes communes, mais la décentralisation est là pour corriger tout cela.
Oui, la décentralisation est là et c'est les maires aujourd'hui qui doivent faire preuve d'ingéniosité pour, je dirais, résoudre un peu ce problème. Vous savez, il y a la NASAP, c'est vrai, qui est là, mais la NASAP a un rôle à jouer, mais le gros travail, c'est au niveau des mairies. Mais force est de constater que au niveau de plusieurs mairies, ça piétine encore. On parle de problèmes financiers. Et même moi, je dis aussi qu'il y a un grand problème d'innovation. Parce que quand on dit qu'on est maire, il faut qu'on réfléchisse. Je suis là pour ma mairie. Qu'est-ce que je peux initier qui peut amener à ce que ma mairie soit la plus propre? Moi, je dis en temps même, pourquoi ne pas lancer un concours pour inciter les communes, c'est-à-dire la commune la plus propre de Lomé, voire du Togo. On lance un concours incitatif pour amener les gens à s'investir davantage. Parce que quand on parle d'incivisme, c'est vrai, pendant longtemps, il y a eu un laisser-aller. Il ne faut pas se cacher. Faut pas se cacher le visage ou bien cacher le voile. Il y a eu un laisser-aller. Mais maintenant que la décentralisation est en train d'arriver, c'est maintenant que les gens comprennent un peu. Les gens pensent que quand ils salissent une ville, c'est à l'État qu'ils font du mal. Mais malheureusement, c'est à vous-même qu'on fait du mal. Quand la ville est sale, quand vos égouts dégagent des odeurs nauséabondes, mais c'est vos enfants qui vont tomber malades. Mais certains pensent qu'en faisant ça, ils sont en train de faire du mal à l'État. Mais il faut amener les gens à comprendre que, en fait, nous avons intérêt, tout intérêt, chacun d'entre nous, à protéger l'environnement, être beaucoup plus civique. Parce que quoi qu'on dise, c'est vrai que l'État va dépenser les moyens qu'il faut pour mettre au point chaque temps que sera sale, mais quand on parle de santé publique, c'est vous qui d'abord allez en payer le prix. Donc je crois que l'État doit faire sa part. Mais outre la sensibilisation, c'est-à-dire la carotte, il faut utiliser le bâton. Parce que la sensibilisation seule ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Dans certains pays aujourd'hui, vous ne pouvez pas jeter un truc par terre. Je vous dis, il y a une caméra qui vous prend directement.
Mais là aussi, c'est parce qu'il y a une police municipale.
Oui, il faut qu'on en arrive à ce niveau. Parce que, vous savez, dans les pays développés aujourd'hui, le gros problème, c'est le problème de recyclage des déchets. Parce que quand on est développé maintenant, on produit énormément de déchets. Mais nous, on n'est même pas encore à ce niveau. Mais déjà, nous n'arrivons pas à gérer nos déchets. Il y a un gros problème. Je crois que au niveau du ministère de l'Environnement, il faut qu'on réfléchisse davantage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter les gens à devenir plus civiques? C'est une réflexion. Il faut sortir des sensibilisations classiques. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont une appréhension vis-à-vis de l'État. Peut-être que quand le message vient, ça ne passe pas. Mais il faut qu'on réfléchisse sociologiquement au niveau de telle communauté. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour qu'à ce niveau, les gens arrivent à comprendre que, quand nous faisons telle chose-là, cela ne nous avantage pas. Et comme je l'ai dit, outre cette forme de sensibilisation, il faut également le bâton. Parce que la carotte seule ne suffit pas. Elle ne suffit pas. Il faudra qu'on puisse discipliner les gens afin que tout le monde puisse rentrer dans les rangs. Aujourd'hui, vous allez au Rwanda, mais vous ne pouvez pas voir un truc par terre. Moi, j'y étais, j'ai dit, c'est une ville magnifique que vous allez mettre quand vous êtes à Kigali. Il n'y a pas de désordre. Mais c'est que les gens, à un moment donné, ont intégré ça et ont compris que, nous avons tous intérêt à rendre notre ville propre. Quand la ville est propre, c'est également les touristes qui viennent. Mais quand les touristes viennent, ils voient que, Lomé est une ville qui n'est pas propre et tout ça participe à ce que ça ralentisse un peu les activités touristiques. Et puis, quand les touristes ne viennent pas, bon, on a une mauvaise image de votre pays, de votre capitale.
Et c'est l'économie qui prend aussi un coup.
Qui est empathie, il faut
d'accord.
Le dire.
Ouais. Alors, nous allons aborder un autre sujet. Abordons le sujet concernant surtout le décès alors du président Gnassingbé Eyadema, puisque je vous posais la question tout de suite alors de savoir est-ce que vous étiez invité à Accra, puisqu'il y a des gens, c'est bien sûr, qui étaient depuis hier à Accra pour cette commémoration. Alors, il y a des journaux qui sont revenus sur le sujet. Il y a le journal Le Changement qui est revenu sur le sujet. Le journal écrit 5 février 2025, 20 ans après le décès du président Gnassingbé Eyadema, des révélations sur les circonstances de la mort du patriarche. Autre journal, c'est le journal Canal D. Canal D, vous titrez sur le sujet 20e anniversaire du décès de Gnassingbé Eyadema, rude bataille autour du père de la nation. Les chercheurs scrutent l'empreinte de Eyadema sur la paix en Afrique. Encore autre journal, c'est le journal Chronique de la Semaine. Chronique de la Semaine qui écrit 5 février 2025, 20 ans après sa mort, le général Eyadema vit encore à travers ses œuvres. Encore un autre journal, c'est Le Dialogue. Le journal Le Dialogue qui écrit anniversaire du décès de Gnassingbé Eyadema, 8 personnalités récompensées pour leur engagement. Et le journal Togo Matin aussi est revenu sur le sujet. Feu général Eyadema Gnassingbé, la mémoire d'un grand homme qui transcende les frontières nationales. C'est ce que le journal écrit. Il y a le journal Ouara, les vainqueurs aussi, qui écrit 20e anniversaire de la disparition de Gnassingbé Eyadema, un colloque international pour honorer le père de la nation. Le journal Dounia aussi écrit 20e anniversaire du décès du général Eyadema, gigantesque hommage. Le journal Le Tonnerre aussi écrit hommage à feu président Gnassingbé Eyadema, le vibrant témoignage de Monsieur Pisa. Et le dernier journal que nous avons ici avec nous, c'est La Nouvelle Tribune. La Nouvelle Tribune qui écrit décès de Gnassingbé Eyadema, 20 ans déjà. Et des festivités commémoratives en présence de 5 chefs d'État, 8 personnalités décorées, l'anecdote du chiffre 13. En bref, oui, c'est vrai. Et des journaux sont revenus alors sur le sujet. Et aujourd'hui, quand on prend déjà 20 ans après la disparition du général Gnassingbé Eyadema, et finalement, quand on doit établir peut-être un bilan par rapport à son règne et tout, qu'est-ce qu'on pourra dire?
D'abord, Eyadema a passé 38 ans sous la direction du Togo. Après l'assassinat de Sylvanus Olympio, il était dans le cercle de ceux qui avaient revendiqué cet assassinat. Et il est revenu en 67. En plus, 38 ans passés à la tête d'un État, c'est pas du gratuit. C'est pas du chocolat, quoi. C'est beaucoup. Pratiquement 40 ans. C'est beaucoup. Mais encore faudra-t-il dresser le bilan pour savoir ce qui en a été de sa gestion à la tête du Togo, comparativement à certains de ses pairs de la sous-région. Maintenant, on parle de grand homme. Tout ça là, c'est des superlatifs qu'il faut analyser avec la loupe. Grand homme, en quel sens? Pour avoir construit les éléphants blancs dans les années 70, ou pour avoir joué des médiations à coup de billets. Ça, c'est ceux-là qui sont de sa génération et nos grands frères qui peuvent en situer. Sinon, je le connais très bien. Moi, je connais très bien Eyadema. Je ne suis pas allé chez lui, mais moi, j'étais là, juste à côté, depuis les années 80. Quand les chefs d'État venaient, on était au primaire, on était au CEG, mais qu'on n'a pas ici. C'est nous-mêmes qu'on sortait pour aller faire l'arrêt pour le passage. Donc, je le connais très bien. Les 20 ans d'Eyadema, moi, j'étais au tableau de fond. Donc, je connais très bien Eyadema. Toute la stabilité qu'il y avait eu en cette période-là, nous, on ne maîtrisait rien. On ne savait même pas que les Ninavi étaient déjà dans l'ombre, dans l'opposition avec les Jekris. Mais on suivait de bout en bout l'actualité jusqu'aux années 90 où ça, tout a pété. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle d'Eyadema, l'héritage d'Eyadema, l'héritage d'abord, ce sont ses enfants biologiques et ensuite, c'est son parti politique qui a été mué en unir tout récemment. Et on revient aussi sur une commémoration ou un anniversaire. C'est les deux, je crois, parce qu'il y a eu des pagnes multicolores et multiformes qui ont été faites à l'effigie de l'homme. On parle aussi du repos de l'âme, ce qui suppose que Eyadema, depuis qu'il est décédé depuis 20 ans, son âme, je me suis posé la question, est-ce que son âme erre toujours? Donc l'âme ne se repose pas. Et si ça n'est le cas, pourquoi? Ça, c'est aux spiritualistes de nous le dire. Mais ce qui est important, c'est que la famille et la famille politique, la famille biologique et politique et des amis ont choisi quand même de se rappeler de lui, tout en n'ignorant pas que c'est quelqu'un qui l'a remplacé le 5 février là. Et lui aussi, il est dans ses 20 ans. C'est l'impression qu'on a que c'est Faure Gnassingbé plutôt qui célèbre ses 20 ans d'arriver au pouvoir. Maintenant, la question du père de la nation ou père du pays, selon certains, ou etc., qu'on est en train de, autour duquel on est en train de se tirailler. Moi, c'est une question qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Sylvanus Olympio est le père de l'indépendance, le premier premier ministre du Togo, le premier président du Togo, qui a accédé à l'indépendance avec d'autres Togolais, et donc qui est entré dans le Conseil des Nations après le 27 avril 1960. Je crois que c'est en septembre que le Togo a intégré les Nations Unies. Les Nations Unies, on parle des Nations Unies. Déjà, il y avait des nations dans d'autres horizons. Et le Togo aussi a intégré ce regroupement de nations-là comme étant une nation. Et donc, la nation togolaise est déjà née avec Sylvanus Olympio. Parce que, je le saurais définir de façon étymologique, le mot nation, mais je comprends que c'est plusieurs communautés, plusieurs ethnies qui se regroupent sur un territoire et qui essaient de s'entendre sur un point commun pour pouvoir vivre ensemble. C'est ma définition que j'ai activement cherchée comme ça. Et il y a des Dagomba, il y a des Loso, ou qu'on appelle aujourd'hui des Naoda, il y a des Kabien, il y a des Évé, des Akposo, il y a des Anans, il y a des gens d'Anero, il y a les Kotokoli, il y a tout ça là, les Moba, qui se retrouvaient sur le même territoire. Et donc, il y a déjà un commencement de nation qui a commencé par germer avec Olympio. Et vous, si, pour couronner le tout, si vous allez sur le monument de l'indépendance, qui a été confectionné en cette période-là, avant et Adima, c'est bien écrit sur le monument. Heureusement qu'on n'a pas encore effacé. Puis avec je crains même que, avec cette polémique-là, les gens puissent aller effacer ça.
Pourquoi ça existe?
Ils ont dit, peuple togolais, par ta force et ton courage et ta détermination, je crois, la nation togolaise est née. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est écrit déjà avant 1962, avant le 13 janvier 63 où Olympio avait été assassiné. Est-ce que vous comprenez? Et donc, la polémique ne devait pas exister. Et Adema a été peut-être le père d'un pays pendant 38 ans, le père d'un Togo qui a commencé par voir les éléphants blancs sortir la preuve il y a le 2 février, il y a Sarakawa, ce que son fils n'a pas pu faire pendant 20 ans. Ça, on peut considérer ça à Adema. C'est à lui, quoi, vous comprenez? Mais il y a des mains qui a fait 38 ans, Olympio qui n'a fait que 2 ans ou 3 ans. Père de l'indépendance. Premier ministre du Togo autonome. Père de l'indépendance parce que premier président du Togo. Et aujourd'hui, les gens se tiraient autour du père de la nation. Et le parti politique, l'ANC, quand vous lisez le dernier communiqué de l'ANC, ce communiqué a été clair. Il y a beaucoup d'éléments qui rejoignent. Nous, notre analyse. Parce que je l'avais déjà dit, qu'on ne peut pas rivaliser père de la nation avec Olympio. C'est écrit sur le monument de l'indépendance. Avant 63, quand Olympio avait été tué. Maintenant, pourquoi on critique? On cherche un titre. Moi, je peux le trouver un titre.
Et c'est quoi ce titre?
Le père du pays, d'accord.
D'accord, ok, merci.
Si le veulent. Parce que on ne peut pas tirailler sur ça, quoi.
D'accord, ok.
Moi, je dis que Adema a été un homme d'État. Sauf que le mal qu'il a créé dans le pays et que ce mal-là continue pas à perdurer et que beaucoup de Togolais sont en train de quitter le Togo, on ne peut plus l'appeler un grand homme. Parce qu'un grand homme, c'est celui qui sait se laisser pour que son peuple avance. L'héritage qu'il a laissé aujourd'hui, c'est ce que le fils est en train de continuer. Et ce fils ne fait que pratiquement tout détruire. Parce que au moins lui, il a fait les éléphants blancs. Hôtel Sarakawa, hôtel 2 février, hôtel de la paix, qui est dans une décadence totale. Maintenant, dites-moi ce que Faure Gnassingbé a fait. On va nous dire, la première route nationale numéro 1, qui quitte Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Vous avez vu comment les gens font des accidents là-bas? Mais Peut-être lui ne prend pas des véhicules pour aller à Accra, il prend l'avion, les Fokker ou les hélicoptères pour Rujan, puis à Accra. Mais aujourd'hui, des accidents se produisent. On n'a pas même une seule autoroute au Togo. Pas de chemin de fer.
D'accord.
Pas d'hôpital. Pas de stade du rang de ce que l'autre l'a fait en Côte d'Ivoire. Pas de changeur. De grâce.
D'accord. Ok, grâce. Oui, mais Jean, oui, mais vous avez titré sur le sujet 20e anniversaire du décès de Gnassingbé Yadema, rude bataille autour du père de la nation. Les chercheurs scrutent l'empreinte de Yadema sur la paix en Afrique. Alors, finalement, cette bataille, comme on le dira, le jeu en vaut vraiment la chandelle.
Oui, rude bataille, nous avons dit rude bataille parce que, vous savez, le 20e anniversaire du décès du général Gnassingbé Yadema, c'est l'événement de la semaine, il faut le dire. Et depuis même la semaine dernière, il y a beaucoup d'acteurs politiques, beaucoup d'observateurs qui ont commencé par se prononcer. Mais il faut dire quand même que pour l'événement, il y a eu... un programme riche en activités qui a été concocté à la mesure de l'élus disparu, notamment un colloque scientifique, dit-on, pour analyser l'impact de l'homme sur la paix en Afrique. Et c'est au cours de ce colloque-là que la question a refait surface sur qui est le père de la nation au Togo. Et le professeur Bakana a été, on ne peut plus clair, en disant que c'est une commission, la commission mise en place par, à l'époque, le chef de l'État, le Premier ministre Edem Kodjo, Premier ministre d'alors, pour analyser l'histoire, et même ils ont dit, commission de réflexion pour la réhabilitation de l'histoire du Togo, avec pour mission de revisiter toute l'histoire du Togo, identifier les grands hommes dignes d'être immortalisés, recenser tous les anciens chefs d'État, de gouvernement, les anciens hauts dignitaires de l'État décédés ou vivants. Donc c'était l'objectif de cette commission, et c'est dans le rapport de cette commission qu'il a été décidé que Sylvanus Olympio garde le titre père de l'indépendance et Gnassingbé Yadema garde le titre de père de la nation.
Là, c'est pour couper la poire en deux.
Père de la nation, pourquoi? Parce qu'on dit qu'il a fait des efforts considérables pour la cohésion nationale du pays. C'est pour cette raison qu'on lui a décerné le titre de père de la nation. Mais malheureusement, on constate aujourd'hui que cette expression, cette appellation ne fait pas l'unanimité. Faut avoir le courage de le dire. C'est vrai que c'était décrété en 2006, mais aujourd'hui nous sommes en 2025. Et j'ai l'habitude de dire quelque chose. Le Togolais de 2005 n'est pas le même Togolais de 2020. Et au fur et à mesure, les idées changent. Il y a beaucoup de choses qui permettent quand même que les gens voient les choses autrement. Vous avez vu la sortie de l'ANC qui clairement trouve que c'est une falsification de l'histoire. Et vous avez également le professeur Pascal Adiamago qui a retracé et qui a fait retour aux sources comme Ambroise tout à l'heure, en expliquant que sur les fonds baptismaux au niveau du monument, c'est clair que c'est là où la nation togolaise est née. Et pour eux, du moment où la nation togolaise est née, sous Sylvanus Olympio et ses acolytes, c'est à eux que revient le titre père de la nation et non pas à Yadema. Mais au-delà de tout, nous nous posons une question. La commission qui a travaillé avait pour objectif de réconcilier les Togolais, en fait, en allant en profondeur dans l'histoire.
Tout à fait, c'était ça l'objectif.
C'était ça l'objectif. Mais aujourd'hui, on se rend compte que, en fait, cette dénomination n'a pas permis réellement de réconcilier les Togolais. Parce que quand vous écoutez les avis partagés des Togolais et de différentes positions, vous voyez qu'il y a véritablement un problème qui ne dit pas son nom. Au-delà de ce qui est fait, maintenant, quel est le constat que nous faisons? C'est ce que je dis, en fait. C'est dit. Et ce que les gens observent, c'est vrai que Yadema, le général Yadema a régné pendant 38 ans. 38 ans, ce n'est pas rien. Il a eu son lot de ce qu'il a fait de bien. Et il y a également ce qu'on peut lui reprocher. Vous voyez un peu. Mais si aujourd'hui, 20 ans après, on célèbre avec faste les 20 ans de son départ, beaucoup se demandent qu'est-ce qui a été fait pour le départ de Sylvanus Olympio. Du moment où ces deux figures historiques que nous célébrons au Togo, on a comme l'impression qu'il y a plus d'emphase, plus de zoom, plus d'hypermédiatisation sur une figure historique au détriment de l'autre. Ce qui fait que certains te disent, mais...
Non, mais oui, Jean, est-ce que oui. Là, ça ne se comprend pas. Avec le fait que c'est le fils alors de Yadema qui est toujours au pouvoir aujourd'hui.
Là, ça voudrait dire une chose. Ça nous amène à poser une question. Est-ce que le général Gnassingbé Yadema est aujourd'hui célébré parce qu'il est le père du chef de l'État actuel ou il est célébré parce qu'il a été une figure politique du Togo? S'il est célébré parce qu'il est juste le père du chef de l'État, ça se comprend. Mais s'il est célébré parce qu'il est une figure politique historique du Togo, il faut donner également la même célébration au père de l'indépendance qui est Sylvanus Olympio. Parce que quand on sent qu'il y a un deux poids deux mesures, croyez-moi, certains vont toujours demeurer frustrés. Et ça, on ne va pas se cacher le voile, on ne va pas se cacher le visage. Il y a un malaise qui est installé. On ne refuse pas qu'il y ait une célébration pour le général Gnassingbé Yadema qui est dénommé père de la nation, mais qu'il y ait également une célébration de la même hauteur, de la même valeur pour le père de l'indépendance qui est Sylvanus Olympio. Vous savez, actuellement, avec ce que nous vivons au nord du Togo, on n'a plus que jamais besoin que les Togolais soient soudés entre eux. Ce n'est pas le moment qu'il y ait des rancœurs qui soient ressuscitées et qui mettent à mal la cohésion sociale, le vivre ensemble. Et nous, à travers cet article, c'est également pour interpeller le chef de l'État. C'est vrai que la commission a travaillé en 2006, mais aujourd'hui on est en 2025. Et par rapport aux différentes données, à tout ce qui est observé, il faut que le chef de l'État, moi je le dis, prenne de la hauteur et essaie de voir comment essayer de restaurer un peu, d'équilibrer les choses. Parce que, quoi qu'on dise, je vois certains qui disaient la dernière fois que est-ce que l'expression père de la nation, on a discuté sur ça, est-ce que ça nous donne à manger? Mais si ça ne réconcilie pas les Togolais, la réconciliation est un pilier de la nation. C'est pourquoi on a dédié une commission à ça. Ou bien je me trompe.
D'accord,
si la réconciliation des Togolais n'est pas importante, on ne mettrait pas autant d'énergie. Mais si on se rend compte que malgré ce qui est fait, il y a toujours un problème, il y a une difficulté, il faut maintenant s'asseoir, voir comment faire pour restaurer ça. Parce que quand le ciment, le ferment qui nous unit n'est plus ce qu'il est, n'importe quoi peut arriver. Et d'accord. Ce n'est pas ce que nous voulons pour notre pays.
D'accord. En vrai, c'est vrai que quand on parle de 20 ans de disparition du général Yadema, c'est aussi 20 ans de pouvoir de Faure Gnassingbé. Mais le bilan s'impose. Qu'est-ce qu'on peut retenir alors dans ce bilan?
J'ai bien de le dire.
Oui, justement, tu en avais parlé.
Dans le bilan, il n'y a rien. C'est, on ne dira même pas mitigé.
Non, mais est-ce qu'on dira?
Parce qu'on dira qu'il y a une malédiction. C'est-à-dire que quand les gens touchent quelque chose, ça doit se détruire. C'est-à-dire qu'ils ne construisent rien. Ils sont là. Il faut du surplace. Quitter un peu pour que d'autres personnes aussi viennent. C'est tout ce que le peuple togolais... Tout ce qui se passe là, le togolais le voit. Hein. Oh, le togolais voit tout. Il a bien résumé avec une commission. C'est des hypocrites. Tous ceux qui ont travaillé dans cette commission-là, ils ont manqué de courage de dire la vérité à Faure Gnassingbé. Monsieur le Président, quand vous allez au Mali, c'est Jomo Kenyatta. Point. Quand vous allez au Kenya, c'est... comment on dit ça? Et non, c'est plutôt Jomo Kenyatta au Mali.
Au Kenya, au Mali. Aux États-Unis, c'est George Washington.
C'est lui.
Au Ghana, c'est Kwame Nkrumah.
Oui. Malgré que lui aussi n'est pas tout à fait blanc, mais c'est lui quoi. Kwame Nkrumah ne fait pas l'unanimité forcément, mais c'est lui le père du panafricanisme. En tout cas, en Afrique, il y a les Marcus Garvey et autres. Quand vous allez en RDC, c'est qui? C'est Patrice Lumumba. Vous allez au Burkina. On a beau dire que Sankara a été très dur avec Tata. C'est ce qu'on reproche à Olympia aussi. Hein. Mais tout ce monde de site là, ils n'ont pas été si blancs. Mais ils ont fait l'unanimité comme quoi, c'est eux quoi. Si quelqu'un lutte pour l'indépendance et qu'il a obtenu cette indépendance pour vous là, la première reconnaissance, c'est de reconnaître que c'est lui. Il ne faut pas jouer au cinéma quoi. Et moi, j'ai accusé la commission de ça, que d'un côté ou autre, il était dedans. Ouais. C'est des gens...
Même Gilles-Christ Olympio faisait partie.
Lui, je ne veux même pas prononcer son nom.
S'il te plaît, oui,
moi, je ne veux pas prononcer son nom. Parce que lui, déposons-le à gauche ici, en attendant. Mais je dis aujourd'hui que on ne doit pas. Il ne faut pas jouer à l'hypocrisie là. Allez droit au but là. Dites la vérité aux gens. Vous pouvez mourir, il n'y a pas de souci. Dites la vérité. Demain, cette vérité rejaillira. Vous savez quoi? Les gens cherchent à combattre les brèches, à équilibrer les choses. Olympio a été célébré. Sa date d'assassinat, le 13 janvier passé, personne, même pas une seule messe ou un culte a été commandé pour commémorer la mémoire d'Olympio. Vous voyez ça?
Vous voulez parler du gouvernement?
Je parle du gouvernement togolais. Qui va le faire? Vous pensez à sa famille biologique? Et il faut les laisser quelque part. Olympio appartient à l'État togolais. Pas forcément. Quand il s'agit de ce dossier-là, ce n'est plus la famille qui intervient. Olympia appartient à la République togolaise et à tous les Togolais. Et c'est à ce titre que nous disons qu'il est le père de l'indépendance, le premier président du Togo, père de la nation. Ok, pour la démon, petit père du pays, vous voulez, si vous voulez. En deux griffes, je le dis. Parce que lui aussi, il a existé. Mais quelqu'un qui a fait 3 ans, vous imaginez? Et quand nos amis qui sont au pouvoir se tiraient là, mais eux-mêmes, ils savent pertinemment dans leur fond que c'est Olympio, quoi. D'ailleurs, on dit, c'est Olympio, c'est lui, quoi.
D'accord, ok.
Vous comprenez les gens?
Oui, oui.
Jean. Ils peuvent tout faire.
Oui, mais voilà.
Merci. Mais ça va revenir.
Merci, Ambroise. Oui, Jean, d'une manière objective, est-ce que les 20 ans de Faure Gnassingbé aujourd'hui, quand on fait le bilan, est-ce qu'il n'y a rien à mettre sous la dent?
C'est là où je ne suis pas totalement d'accord avec Ambroise. Vous savez, quoi qu'on dise, quoi qu'on ait à reprocher à Faure Gnassingbé, il faut quand même reconnaître que quand il héritait du pays en 2005, nous tous on sait comment le pays était. Et aujourd'hui nous sommes en 2025, on sait également ce que le pays est. Il y a des avancées, mais il y a également des points sur lesquels on a matière à dire. Nous avons un nouvel aérogare aujourd'hui, on peut pas dire que c'est pas rien. Quand vous voyez dans la zone, la banlieue nord de Lomé, c'était beaucoup de routes poussiéreuses. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de routes. Moi, je me rappelle en 2017, une personnalité était arrivée au Togo, et je crois que c'était en 2019, et il me confessait, il disait, mais Jean, vous avez des routes chez vous au Togo. Nous, au Congo, on n'en a pas, malgré que nous sommes un pays producteur de pétrole. Vous voyez, souvent, c'est des choses qui vous amènent à voir que même si souvent vous plaignez certaines choses, quand même, on a quelque chose qu'on peut toucher du doigt. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on doit dormir sur nos lauriers. Et le principal bémol qu'on fait souvent à la gouvernance de Faure Gnassingbé, c'est la lutte contre la corruption et l'impunité. Ça, il faut que nous puissions le dire.
Ça devient un grand défi.
Ça devient un grand défi pour le pays. Et plusieurs fois, nous l'avons dit sur ce plateau. Au-delà des chantiers qu'on met en place, on veut mettre l'agriculture à un haut niveau. Voici, on veut faire ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de plans qu'on a déroulés, notamment depuis la SCAP, DRCRP. Nous avons la feuille de route gouvernementale, le PND, tout ça. C'est des choses qui ont été mises en place. Mais sur l'impact, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions. Il y a matière à redire. Et si Faure Gnassingbé veut vraiment avoir son inscrit en lettres d'or, c'est-à-dire au niveau de l'histoire togolaise, au niveau du Panthéon, comme plusieurs l'ont dit, il faut véritablement qu'on lutte contre la corruption. Parce que si on ne lutte pas contre la corruption, malgré la bonne initiative qu'on aura, malgré les milliards qu'on va aller négocier de part et d'autre, une bonne partie va finir dans les poches de plusieurs personnes et, ma foi, à la fin, il sera comptable. Même si c'est des personnes qui ont détourné, qui ont fait n'importe quoi derrière lui, on dira sous le règne de Faure Gnassingbé. Notamment aujourd'hui, quand on parle de sous le règne du général Gnassingbé, il y a débat. Est-ce qu'on doit que c'est tel ministre qui avait volé l'argent, mais c'est X, Y? Non! C'est celui qui était la tête. C'est celui qu'on jette son dévolu. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé, je crois que c'est sous lui qu'on a quand même eu un régime parlementaire. Ça, il faut pas oublier de le dire. Même si le régime parlementaire est arrivé de façon, je vais dire, à la hussarde où les Togolais n'ont pas vu ce régime venir, dans l'histoire, on retiendra que sous le règne de Faure Gnassingbé, le Togo est entré dans un régime parlementaire.
D'accord. Alors, ça nous amène à parler des sénatoriales. Et je pense qu'il a bien fait la transition. Et on va parler des sénatoriales. C'est vrai que dans les préparatifs et tout, nous avons écouté et que au niveau surtout alors de l'opposition, et quand on prend un parti comme l'ANC, vous avez appris quand même que l'ANC a exclu pratiquement 7 personnes alors de ses rangs. Il y a également la FDR, hein, qui le parti a exclu également et 2 personnes alors de ses rangs. Alors finalement, c'est vrai, nous avons fait le débat surtout concernant l'ANC alors dans ce studio. Ambroise, on pourra dire que avec même la FDR aussi, c'est l'ordre normal des choses.
Oui,
surtout quand on connaît la position alors des 2 partis.
Oui, avant de revenir à la position de ces 2 partis, je voulais quand même, quand on parle de bilan de Faure Gnassingbé, bilan sur le plan social, économique. Économique, il a dit, la corruption est là, en tant que système. Sur le plan social, c'est le chaos. Sur le plan infrastructurel, c'est-à-dire que tout ça, je parlais de la route.
Je voudrais qu'on aille un peu vite, parce que je vous ai déjà posé la question.
Politiquement, oui, on va voir. Nous sommes dans le trou actuellement, oui. Politiquement. Quand Togolais a demandé le régime parlementaire, bon, je dépose ça là, on va y revenir.
Tout à fait.
Maintenant, tu parles des élections sénatoriales, les sénatoriales qui sont dans la main actuellement du parti qui est au pouvoir, parce que c'est les collèges, c'est un collège qui va, c'est les grands électeurs qui vont voter les partis politiques, que ce soit de l'opposition ou de trucs, parce que je ne sais même pas combien de partis politiques de l'opposition sont au sein des conseils régionaux. Il y a des conseils municipaux, ils sont là. Mais le problème, c'est qu'il y a des partis aussi qui ne... Beaucoup de partis d'opposition ne veulent pas aller à ces élections sénatoriales. Pas parce qu'ils veulent boycotter les élections sénatoriales. Tout simplement parce que le Sénat même, il n'en veut pas. C'est des gens qui n'en veulent pas. Parce que selon eux, le Sénat est budgétivore et inutile. Ça,
c'est ce que le parti uni a démenti en faisant
sortir. Il n'a pas besoin de démentir.
En faisant
les Togolais, nous, on voit. On s'y connaît un peu en la matière. Démentir en quoi? En quoi le Sénat est utile? Même j'écoutais un expert la dernière fois sur une radio. Il a clairement dit, mais j'ignore le nom. Il dit que le Sénat à la Chambre haute et l'Assemblée nationale à la Chambre basse sont constitués le Parlement. Maintenant, chacun a son rôle. Mais le rôle prépondérant qu'il faut confier à quelqu'un ou à une entité ou à une chambre dans ça, c'est le Parlement. Parce que c'est le Parlement qui fait quoi? Qui vote les lois. Et c'est le Parlement qui contrôle l'action du gouvernement, qui contrôle les activités du gouvernement. Et le Sénat est là pour justement voir si ce qui est fait est bien. Et le mal encore au niveau du Sénat, c'est que le Sénat n'est pas comme celui des États-Unis en fait. C'est-à-dire qu'ici, il y a le tiers que le chef de l'État nomme. Si moi, par exemple, ou toi, tu n'aimes pas le chef de l'État, mais qui nomme déjà un tiers des membres du Sénat, tu serais d'accord? Donc il y a une illégitimité aussi qui s'ajoute au caractère budgétivore du Sénat, au caractère inutile du Sénat. D'ailleurs, il y a une illégitimité du Sénat. La preuve, certains pays l'ont annulé, l'ont effacé de leur corpus politique et institutionnel. Et donc aujourd'hui, peut-être ils veulent faire l'expérience. Ils n'ont qu'à le faire, on va voir. Parce que ce que nous savons, de par l'expérience politique que nous avons, de par la direction de 58 ans, que il y a des manières que font en train de faire aujourd'hui, on comprend aisément que c'est pour s'éterniser au pouvoir. Parce que le Sénat vous confère d'abord un statut de président, de membre à vie, quand vous êtes président. Mais sauf que ici, dans ce cas-là, le président du Conseil, qui sera nommé par ce Sénat-là, ce qui oblige d'ailleurs à avoir ce Sénat, ce président du Conseil, personne ne peut le démolir, personne ne peut le déranger là où il est. Et il n'a pas de mandat. Il n'a pas de fin de mandat. Il est là. Peut-être on va vous dire qu'on va organiser les élections législatives, qui va revenir, les élections vont conférer les députés, et c'est les députés qui vont, ensemble avec le Sénat, désigner l'Assemblée nationale. Sauf que les élections ne sont jamais transparentes dans notre pays. Et donc, le peuple togolais est très loin à gauche, et ceux qui sont les minoritaires, sans pouvoir, font le truc à droite. Et là, nous, on regarde, on verra d'ici le mois de mai, juin, ce qui va se passer. On verra si c'est Fonia Simbé qui sera le président du Conseil, le fameux président du Conseil dont on parle, et les prérogatives qui lui sont consacrées, qui lui sont confiées, étant pratiquement le tout, on verra comment le déroulé va se faire, si ça va créer des problèmes plus aux Togolais, ou ça va les libérer.
D'accord.
Sinon, en conclusion, le régime parlementaire togolais est un régime qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde.
Et est-ce que ça ne tient pas aussi compte de nos réalités, comme on l'a dit
Non, c'est vous toujours qui avez la réalité. Mais la VAR a parlé. C'est Barra qui avait contesté le régime parlementaire.
Tu as suivi la vidéo? Effectivement.
Barra avait contesté le régime parlementaire. Tout comme le ministre Mont aussi avait parlé des ADMA. Vous voyez, le mensonge court, mais la vérité le rattrape toujours.
D'accord, ok. Oui, mais Jean, je parlais alors de ces exclusions au sein alors du parti ANC et également au sein du parti les FDR. Et finalement, c'est dans l'ordre normal des choses puisque ces partis ont aussi des lignes conductrices et surtout de la discipline.
Oui, c'est dans l'ordre normal des choses parce que, je dis, quand vous n'êtes plus à un moment donné d'accord avec la ligne d'un parti, vous démissionnez. Vous ne pouvez pas être membre d'un parti et faire le contraire de ce que le parti demande. Si à un moment donné, les instances du parti se rendent compte que vous êtes en porte-à-faux avec la vision, les idéaux du parti, c'est d'ailleurs normal qu'on vous exclue. Et ça, il n'y a pas réfléchi de midi à 14 heures. Bon, c'est une position que les deux partis, notamment l'ANC et l'FDR, ont prise depuis la débâcle aux récentes élections législatives. Elles ont trouvé que ça ne valait plus la peine d'aller. Elles ont décidé de ne pas siéger les deux entités. Et donc, si vous vous reconnaissez comme membre des deux entités politiques, vous suivez la ligne directive du parti. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous démissionnez, et alors vous êtes libre de continuer votre parcours politique, mais sachant bien que vous n'êtes plus lié au parti. Et bien, du moment où vous n'êtes pas démissionné, le parti est en droit de reconnaître, de proclamer aux yeux, à la face du monde, que vous n'êtes plus aujourd'hui membre du parti. Au niveau des sénatoriales, il faut dire une chose, c'est que les dés sont déjà lancés. Il faudrait peut-être un miracle pour qu'on dise que UNIR n'a pas remporté les sénatoriales. Ça, c'est déjà plié. Maintenant, le reste, c'est au niveau de ce que le chef de l'État doit nommer. Vous voyez, quand les gens s'agitent depuis un temps, c'est pour quand même être parmi ceux que le chef de l'État va nommer. Parce qu'ils se rendent compte que le train est déjà en train de partir. Si on rentre, au moins on va trouver un peu pour manger.
Est-ce que ça doit être l'idée?
Je vais te poser une question, Pascal. Dis-moi, quand déjà on a un Sénat majoritairement, je dis à plus de 80% uni, quand vous êtes de l'opposition, vous rentrez pour faire quoi? Quel est votre rapport? Vous allez inverser quelle loi?
Non! Mais on y va toujours.
Le pays. C'est pour ça ils vont aux élections, d'accord. Mais ceux qui plaident pour dire qu'il faut nommer des membres de l'opposition dans les... J'ai dit, ils font tout faux. UNIR a gagné. Laissons UNIR diriger. À la fin, on dira UNIR, voici comment tu as dirigé et tu es comptable. Mais il ne faut pas que les gens, pour des agendas cachés, viennent plaider que non, il faut qu'on nomme pour qu'il y ait un bicaméralisme politique, tout ça, c'est des histoires. D'accord. Aujourd'hui, on n'est plus des enfants, nous tous, on comprend les vrais enjeux.
D'accord,
Malheureusement,
il est midi 3. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs, puisqu'ils s'impatientent aussi à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. Nous avons débattu alors de beaucoup de sujets, bien sûr. Nos deux numéros sont là, 90 86 35 35 91 36 63 75, et aussi notre numéro WhatsApp, c'est 90 45 78 57. Il faut nous écrire des messages sur ce numéro. Sur ce numéro, on n'appelle pas. Ça, il faudrait quand même que nous le soulignions. Mais nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 90. Sommes de retour dans cette émission Club de la Presse, et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35. Premier auditeur en ligne. Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Oui, bonjour chef. Je salue les invités, les journalistes qui sont au plateau.
C'est Sylvain?
Oui, c'est Sylvain.
D'accord, allez-y.
Et franchement, notre vraie histoire, je ne sais pas qui peut nous restituer notre vraie histoire. Nous avons les historiens, les chercheurs. Mais on se demande, je me demande si ces chercheurs ou ces historiens cherchent et ne trouvent pas, ou bien ils cherchent, ils trouvent, mais ils ne veulent pas le dire. Je ne sais pas. Il n'y a rien de cohérent dans l'intervention de certains. C'est parce qu'on n'a pas l'alternance. L'alternance est de mise au Togo pour qu'on nous restitue notre vraie histoire. Et point barre, il n'y a pas à discuter là-dessus.
D'accord.
Bon, je salue, je dis merci aux journalistes quand même pour leur intervention.
D'accord. Merci, Sylvain, pour votre intervention. Bonjour, Canal FM. Pour ce qui concerne les déchets plastiques, nos gouvernants doivent faire tout possible pour décourager les fabricants et les vendeurs et continuer à sensibiliser la population pour l'effet que l'utilisation de ces plastiques engendre dans nos vies. C'est modeste. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
Votre nom, c'est Monsieur Mauto.
Oui,
allez-y.
Ma question à Monsieur Jean, est-ce que
selon lui, est-ce que le président de la République écoute les journalistes? À chaque fois, vous parlez de la corruption, mais il ne fait rien sur ce plan. Deuxième intervention, je voulais exhorter nos professeurs là. Ils n'ont quasi commencé pas à se respecter. Parce qu'ils ont toujours tronqué l'histoire du Togo. C'est pas bien. Au Ghana, le père de la nation, c'est Kwame Nkrumah. Au Togo, c'est difficile quoi. Pourquoi ils font comme ça avec ce pays, man? Le président, il a fait ce qu'il a fait pour ce pays, mais il nous a laissé un pays très divisé. Même au sein, sa famille même s'est divisé. Je sais que c'est un jour, le fils de M. Patnaï et le président Faure pourront fermer. Merci et bonne émission.
Merci à vous pour votre intervention.
Allô. Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va très bien.
Votre nom c'est?
C'est Ouyao depuis Noué.
Ah, M. Ouyao depuis Noué. Allez-y, M. Ouyao.
Je salue tout le plateau.
Oui, le plateau,
si vous savez. Je voulais demander une question à Ambral. Si aujourd'hui il est président de la République, il n'a qu'à bien écouter. S'il est président de la République et son père était président, est-ce qu'il doit célébrer son père ou pas? Aujourd'hui, c'est fort réuni noir, quoi. Et bien, fort réuni noir, quoi. C'est-à-dire, fort pouvait même semer le 5 février, il n'y aura pas un chien qui va parler. C'est aujourd'hui, c'est lui, quoi. Et réuni noir, quoi. Donc, il peut célébrer Olympia comme il peut ne pas célébrer. En Burkina là-bas, là. Il ne peut pas célébrer celui l'homme de la nation. C'est impossible. Aujourd'hui, c'est fort au Togo, là. C'est fort ou rien, quoi. Il peut chemer le 5 février, il peut chemer à tout le monde. Tout le monde respecte du monde.
D'accord, merci beaucoup, monsieur Ouyao, pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô? Bonjour.
Allô?
Oui, bonjour, Pélé.
Bonjour, le plateau.
J'espère que vous allez bien.
Très bien.
D'accord, allez-y.
Je pense que tout l'autre n'a pas eu l'indépendance du pays. Est-ce que l'autre peut être le père de la nation? Je ne sais pas comment un homme peut enceinte une femme. Et c'est un autre qui devient le bébé le père du bébé. Donc ça, je ne vois pas le rapport. Vous voyez? Donc, c'est au Togo qu'on peut trouver ça. Maintenant, à ce qui concerne le bilan de Papa et Adima, on ne doit plus perdre le temps. Si le ministre Christian Témoin est là, je pense qu'on lui passe le témoin et il va agir. Parce qu'il a fait déjà des erreurs. Parce qu'en 2005, Adima est mort. Il ne peut pas passer la main. Mais la présidence est là. C'est ce que on a trouvé dans la caisse qui vient dans la présence que le ministre Christian Témoin, le conseiller du fort, il a déjà dit. Maintenant, quand on parle de Colomb, c'est international. On dit Colomb, c'est international. Je pense que c'est pourquoi on fait allusion à des médiations qu'il y a des mains à faire sur le plan international. Et tout. C'est-à-dire que ce Colomb-là ne concerne pas la nation togolaise, c'est-à-dire le Togo. Si ça concerne le Togo, j'aurais dit que, et à demain, toute la médiation qu'il a fait, il aurait dû se réconcilier avec la justice qui avait donné. Et qu'en face avec la justice solide, il va dire le rôle qu'il a joué dans l'assassinat de son papa. Là, aujourd'hui, on ne sera pas aujourd'hui ici. Donc, en conclusion, je voudrais saluer de passage le ministre Malick Nassamba, qui m'a répondu une question. Une chaîne ici qui a dit, je l'ai posé la question. Monsieur le ministre, la nuit du 5 février 2005, catastrophe nationale, Papa Adima n'est plus, c'est-à-dire le chef de l'État n'est plus. Il devait être président de la République, son papa. Mais elle a garé à côté au Bénin. C'est-à-dire que, en conclusion, le mensonge peut prendre les familles. L'ascenseur. Mais si la vérité prend l'escalier, il va arriver au bon port.
D'accord, ok.
Et sera bloqué.
D'accord, merci Pélé pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler. Je suis Djafala Dadewi. La question de savoir qui de Sylvanus Olympio ou de Papa Yadema est père de la nation, je réponds qu'un rassembleur comme Yadema et un créateur de Eveland comme Olympio ne se partagent rien. Yadema est père de la nation. C'est la réaction lors de Djafala depuis Adewi, 90-86-35-35. Allô?
Oui, bonjour, grand frère.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom, c'est?
Benoît Dagoué.
Ah, Benoît Dagoué. Benoît, allez-y.
Moi, je ne vous comprends pas. Pourquoi vous vous tiraillez sur le père de l'indépendance, père de la paix, père de quoi? Écoutez, si on veut parler du bilan, ceux qui font les colloques là, ils veulent faire le bilan, nous avons fait le bilan du président pour Nassim Béadima au Togo, ce qu'il a fait pour les Togolais. Par exemple, ce qu'il a laissé le marché du Grand Lomé là. Et ça va être brûlé, mais le président Nassim Béadima a empêché. Mais actuellement, où est le marché du Grand Lomé? On ne sait pas. Et si les gens qui devaient parler du président Yadema, c'est pas ça notre intérêt. Le président Yadema était sous sanction depuis 90, sous sanction de l'Union Européenne. Et l'aide là, on l'a coupé. Mais avec le fond, président Pongasimbe, on a repris son main. Les gens, on les a décorés là. On les a décorés pourquoi? Parce qu'ils ont créé des emplois. Ils ont fait quoi pour le Togo? Un jour viendra, tout le monde saura. Merci, bonne journée.
Merci Benoît pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse de ce jeudi. Allô? Allô, bonjour. Bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Allô, bonjour.
C'est votre nom?
C'est Marcel de Thévier.
Marcel
de Thévier.
De Thévier, allez-y.
Super, vous n'avez pas parlé des amis, mais je voulais vous solliciter une doléance. Ma femme est à l'hôpital, l'ami là, ça ne fonctionne rien, yeah, il est actif. C'est comme c'est une pure escroquerie. J'ai amené la femme voulait faire césarienne. Et je suis venu à l'hôpital vers 22, la pharmacie vers 22 heures, mais dit que je suis à le truc de ma femme, la carte amie de ma femme, ils vont faire une demande à la CNSS d'abord, avant de me servir les produits. Il leur dit non. Moi, ma femme est malade, elle est en voie de césarienne. Et le bébé est malade, et la femme aussi est malade. Et on me dit de prendre un ami. On a fait une demande le lendemain avant qu'on offre les produits. Et j'ai déjà laissé tout. Moi, je suis parti payer les produits vers 23h et tout ça. Venez, on a fait. Je veux qu'on ne quand nous foire à faire des amis là. Sinon,
d'accord, ok, merci. Merci Marcel pour votre intervention. C'est vrai, vous n'avez pas touché quand même des sujets débattus ici au club de la presse. Vous avez une préoccupation, bien sûr, c'est ce que vous avez fait sortir. Vous êtes exprimé là-dessus. 90 86 35 35. Allô?
Ah, papa, bonjour.
Bonjour, vas-y.
Je vais diminuer.
Oui, allez-y.
Je ne comprends pas pourquoi il y a fort polémique autour de commémoration de 20 ans là. Bon, on ne sait pas, c'est amalgame, on ne sait pas si c'est le président qui fait ses 20 ans du pouvoir ou c'est 20 ans du décès de l'ancien président. Bon, ce que moi j'ai vu, le président qui est là se trouve être le fils de l'ancien président, il célèbre la mort de son papa. Ça n'a rien à voir avec les Togolais. Ce qui serait marrant, c'est le fait qu'on va déployer beaucoup d'énergie du Togo pour ça. Je pense que c'est là-bas où le bas va blesser. Est-ce que vous voyez? Si le Togolais tire le diable par la queue,
on va aller faire ça là comme ça, l'administration est vidée. Ainsi de suite. Moi, c'est ce que je vois. Et si demain, le fils de Clébert Dadio vient au pouvoir, il va célébrer la mort de son père. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Sinon, pourquoi est-ce qu'on va prendre une seule personne? Ce n'est pas à ce que je sache, ce n'est pas un seul président qui a dirigé jusqu'à présent. Pourquoi on n'a pas fait pour les autres? C'est quelqu'un qui célèbre pour son papa. C'est ce que moi j'ai compris.
D'accord. Merci, merci Basile, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 315. Michel, nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission de ce jeudi. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, madame ici.
Bonjour, madame Abla.
Ah, pardon, madame?
Abla.
Madame Abla, vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de Clicamé.
Clicamé, allez-y.
C'est juste pour fortifier le journaliste Monsieur Ambroise. Il dit qu'il fait un bon travail et de continuer. Et aussi vous féliciter sur le plateau.
Merci beaucoup, Madame Abla.
Bonne journée.
Merci, bonne journée à vous aussi. Ça fait toujours plaisir d'écouter hein, des femmes aussi dans cette émission qui interviennent. Dans cette émission, nous faisons un coucou spécial à Madame Essy. D'accord, Michel nous donne encore l'opportunité de recevoir notre dernier auditeur cette fois-ci. Allô? 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est sur les deux numéros que vous pouvez réagir au club de la presse. Nous attendons justement notre dernier auditeur. Voilà. Et il est en ligne. Allô?
Allô?
Bonjour.
Allô, bonjour, plateau.
Oui, comment vous allez?
C'est au fait l'auditeur Napo.
Ah, Napo.
Du quartier Girano, oui.
D'accord.
C'est juste pour vous fortifier.
Merci.
Et pour surtout jeter des fleurs aux journalistes Ambroise. Parce que toujours quand je l'entends parler, on dirait que c'est un général d'armée et qui libère quand même ce qui est véridique. Félicitations à vous tous. Tout ce que nous voulons, c'est la bonne marche de la chose. Que la chose soit équitablement partagée. Pour que tous les Togolais soient fiers. Merci et bonne suite à vous.
Merci beaucoup, Monsieur Napo, pour ces mots d'encouragement à notre égard. Et je pense que Monsieur Napo, c'est lui le dernier auditeur pour le compte lors de cette émission de ce jeudi. Nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et mettre fin à l'émission. Jean Legrand. Pour le RNI, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur l'actualité telle que débattue ici au Club de la Presse. Votre réaction?
Ma réaction, c'est vrai que on a écouté les avis partagés sur les obsèques du le 20e anniversaire du général Yassine Adema. Moi, je dis, le 5 février, c'était hier. Aujourd'hui, on a déjà le 6. C'est déjà presque fini. Nous allons revenir à nos moutons dans les jours à venir. Mais si on devrait se fier à... C'est-à-dire, on fait un sondage au vu de ce que nous avons écouté. C'est vrai qu'il y a une partie qui est pour la célébration, l'expression par de la nation, une autre partie qui n'est pas pour. Mais est-ce que c'est ce que les auditeurs disent qui va changer ce qui est déjà fait? Je ne crois pas, en fait. Mais l'invite que
moi... Mais ça anime justement le débat.
Ça anime le débat. Oui, vous savez, s'il faut juste regarder le débat qui est animé, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises, qui ne seraient pas prises. Mais tu conviens avec moi que parfois, malgré l'animation qui est au bout du débat, c'est ce qui est décidé au niveau du pouvoir politique, du gouvernement qui doit être fait et qui est fait. Donc, l'important, comme nous l'avons dit, peut-être qu'on arrive à voir quelle dénomination, qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, il dit qu'on peut encore mettre en place une commission pour véritablement voir ce qu'on peut faire pour aplanir les sentiers. Parce que quoi qu'on dise, dans tout ce que nous faisons, que le Togo soit au centre de nos décisions, de nos actions. Que l'intérêt commun, le bien vivre, la cohésion sociale soit le ferment de toute décision que nous prenons. Quand il y a une décision, à un moment donné, on se rend compte que ça met véritablement mal. C'est vrai qu'on ne peut pas être d'accord à 100% sur tout ce que nous voulons pour le Togo. Mais quand même, il y a une masse critique qu'on doit atteindre. Mais sur certaines décisions, certaines positions, on remarque, ah, il y a vraiment, comment je vais dire, on est à couteau tiré. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on peut faire pour amener la quiétude au sein des Togolais.
D'accord, Jean Legrand, je reste avec vous pour votre note de fin d'émission.
Oh, j'ai pas de note de fin d'émission.
Vous n'avez pas de notes. Merci beaucoup, Ambrose.
Oui, moi, je salue ceux qui viennent de me saluer. Bon, moi, je n'aime pas trop les, comment vous dites ça, les acclamations. Dans ma vie, je n'aime pas trop. Moi, mon problème, c'est le travail, c'est la vérité, c'est la justice. Bon, c'est point. Et donc, pour mon ami qui avait appelé entre-temps là, à qui j'avais demandé de chercher de l'eau pour boire, et il a aussi dans son avis, je le respecte. Et nous, c'est vrai qu'on dira, on peut dire que nous sommes tranchés sur certains sujets. Malheureusement, la vérité ne se cache pas. Et la vérité n'a pas deux camps. La vérité n'a qu'un seul camp. C'est comme les droits de l'homme qui n'ont qu'un seul camp. Là où il y a violation, ça se révèle, point. Donc, ce que certaines viennent habiller, ah, il y a violation, il faut faire ça. Non. Et donc, sur le sujet concernant les Olympiens et autres, quand certains parlaient de Evelande, tout ça là, Olympiens ne créait pas l'Evelande. Olympiens veut unifier les Évés du Togo, du Nigeria, du Ghana et du Bénin. C'est ça. L'Olympiens est plus du nord que du sud. Parce que sa maman est d'Angon. Donc, sa maman, c'est la maman qui nous ont portés. C'est elle qui nous ont donné la vie. C'est elle qui nous ont éduqués. Sa maman est de Mango. Et donc, elle est plus du nord. L'Olympiens est plus du nord que du sud. Mais s'il s'intéresse aux Évés, ou peut-être les gens considèrent ou pensent qu'ils considèrent, ils estiment que les Blancs nous ont éparpillés. Et les Dagomba, les Konkomba aussi, ils sont du nord. Quand le culte avait gagné, c'est tout ce monde-là qui avait voté au référendum pour que le Togo devienne indépendant. Et donc, que les gens n'ont pas cherché à nous diviser. C'est Yadema plutôt qui a cherché à nous diviser. Il faut qu'on dise la vérité. Il a même créé une histoire là que tout Togolais peut être partout. Il est Togolais, on ne le refuse pas. Mais pas dans un clivage ethnique et régionaliste. C'est ça qui a créé le problème à Boudjé. C'est ça qui a créé le problème à Couvé. C'est ça qui a créé le problème entre Kabia et Kotokoli, à Sotoubois. Et là, nous, on a l'histoire. Donc aujourd'hui, nous aimons tous. Moi, j'ai fait un seul, deuxième à se coller. Je me connais. Il y a mes camarades, c'est Ganda, c'est Reda, c'est Tan. Mais on ignorait ce qu'on appelle et celui-ci du Nord, celui-ci du Sud. Je suis sincère. Et donc, moi, mes meilleurs amis sont plutôt les gens du Nord. Je suis désolé. Et donc, aujourd'hui, qu'on ne sait pas de nous diviser pour des intérêts politiques, nous, on est ensemble en Togolais, on est une nation. Ceux-là qui cherchent à nous diviser, là, la vérité va s'éclater un beau matin et ils vont rentrer dans leur genre. Et ils sont minoritaires.
D'accord. Merci, Ambrose Ponzo, d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal des Guadiens. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir animé ce débat avec nous. Merci à Jean Le Grand Paul Rigny. Vous êtes directeur de publication du journal Canal D. Merci d'être passé dans l'émission Club de la Presse.
Merci Pascal.
Aujourd'hui, merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés pour apporter votre contribution à ce débat ou à ces réflexions que nous faisons au Club de la Presse. Merci à vous. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dacouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. Au revoir.